essayer, tu enregistres là.
Bonjour, c'est l'heure du documentaire et celui d'aujourd'hui évoque la décision que prennent deux personnes de vivre une dernière fois ensemble. La dernière fois, non pas comme la dernière fois en date, mais comme la dernière fois de la vie. La dernière fois dans une histoire particulière avec une personne en particulier. Que cette dernière fois soit également la première fois, ou qu'il s'agisse d'une séparation après d'autres fois, ou avant de rentrer dans les ordres, ou comme on vieillit, quelles que soient les situations, et évidemment plus encore quand il s'agit de la dernière fois de la vie, la mort infiltre le moment. Contenu dans l'ellipse même de « dernière fois ». Et si cette décision a quelque chose de tragique, c'est un tragique compris, une façon de vivre sa vie, jusqu'au bout, en conscience. Une façon de ne pas laisser les choses se déliter, mais au contraire décider de marquer le moment, dans cet équilibre fragile, entre ce qu'on perd irrémédiablement et ce moment de vie tout aussi irrémédiable.
Ça tourne.
Je viens parler d'une histoire d'amour précaire, dans le sens où la personne avec qui j'ai une histoire d'amour n'est pas libre, vit déjà avec quelqu'un, est mariée, a des enfants. On ne sait jamais trop où ça va aller, avec une fin un peu annoncée, contrairement à d'autres histoires d'amour. C'est à chaque fois assez intense parce que je sais jamais quand va être la prochaine fois. Je me dis toujours, est-ce que je vais tenir? Est-ce que c'est pas la dernière fois qu'on se voit aujourd'hui? C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est hyper intense parce que il y a cette trouille de ça peut se terminer rapidement. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit.
C'était la dernière fois, mais je ne le savais pas. Nous nous voyons, nous faisons l'amour, et elle m'annonce que c'était la dernière fois.
La dernière fois. Caroline Ferrare, Christine Robert.
Impossible de te quitter.
C'était il n'y a pas très longtemps. Quelques mois. Quelques 4 mois. Il m'a toujours trompée, je l'ai toujours su. Mais je l'ai su intuitivement, sans jamais le savoir techniquement ou avec des preuves tangibles. C'était toujours des intuitions. Et ça c'est... Enfin voilà, la dernière fois qu'on a fait l'amour, j'étais au bout de mon énergie. Je pouvais pas donner plus, je pouvais pas aller plus loin.
Reste à Hiroshima avec moi.
La dernière fois, c'était avec qui?
C'était avec un beau monsieur avec qui je couchais depuis 5 ans, donc quand même je le connaissais un peu. Et ça a été... non seulement ma dernière fois avec lui, mais ça a été ma dernière fois.
Faire l'amour une dernière fois. Comment sait-on que c'est la dernière fois? Comment le décide-t-on? Ou pas? Pourquoi s'en souvient-on? Qu'est-ce qui nous en reste? Est-ce que ça fait mal? Dans tous les cas, parler de la dernière fois, c'est parler d'histoire et parler d'amour. Dernière fois récente ou dernière fois ancienne, il raconte.
J'ai le souvenir de cette dernière fois que nos corps se sont si mal approchés. C'était un homme avec qui, en ce moment, les choses allaient déjà très mal, évidemment. La relation souffrait beaucoup. Il est iranien. C'était un homme avec qui j'avais une très belle et intense vie sexuelle. Voilà. Et donc, finalement, les petits moments difficiles, quelque part, tôt ou tard, au lit, tout s'arrangeait. Et ça a duré quand même 5 ans, donc c'était une relation qui avait une certaine importance. Donc ce n'était pas seulement une relation de lit, quoi.
Il était beau ?
Oui. Oui. Beau mec. Grand. Poilu. C'était la première fois que j'avais un mec poilu. Et du coup, je me suis rendu compte que ça me plaisait. Il a été un peu rond, à peine. Et il avait la peau un peu mate, des grands yeux, un très beau sourire, une belle voix très profonde, très mal, ouais. Belle bête. Mais bon, c'était un homme avec qui en ce moment les choses allaient déjà très mal, évidemment. La relation souffrait beaucoup. Nous étions à la campagne, c'était l'été. En été, on vivait dans cette belle maison de campagne de famille. Et ça faisait un bon moment qu'on dormait, mais on se cherchait plus au lit. Ou bien c'était plutôt lui qui ne me cherchait plus. Moi, il me semble de m'en souvenir que j'ai peut-être essayé de quelques tendresses, mais il était très renfermé sur lui, il souffrait beaucoup, sa mère venait de mourir, donc il était dans une souffrance qui était au-delà de la souffrance de notre relation. Hein. Il traversait une grosse crise, lui. Il ne me touchait pas, il ne me cherchait pas, donc dans la journée on s'engueulait, on était tendus, moi je me sentais frustrée. Il y a eu donc du coup un sentiment que j'ai jamais vraiment connu dans ma vie. La frustration d'être refusée, du refus, je ne l'avais jamais ressenti. Chance. Mais là, je l'ai connue et c'était terrible. Et une nuit, en plein milieu de la nuit, je suis réveillée par lui qui m'était sauté dessus. J'ai senti son corps chercher le mien, mais avec quelque chose de très animal, brutal. C'était vraiment quelque chose de très violent, de très insupportable. C'était comme une violence. J'ai le souvenir juste de ces moments, du poids de son corps, du respire sur mon cou. Et ça a été vraiment comme une bête. C'était horrible. Il y a eu sûrement des moments où on était tous les deux de bêtes. Mais c'était dans l'élan, dans la passion. Comme ça, c'était vraiment... C'était horrible, vraiment horrible. Et donc, le lendemain, je me réveille, il n'était plus à côté de mon lit, il était en bas, dans le jardin. Et donc, je suis descendue, il était là, il fumait sa cigarette, il y avait le café. Je commençais à boire mon café. Il m'a dit bonjour, je lui ai dit bonjour, et puis un long silence, et puis il me dit je te fais mes excuses.
Il s'est excusé, mais il t'a pas vraiment expliqué ce qu'il lui avait pris.
Non. En tout cas, il m'a pas donné des explications. Tu sais, les garçons, les mecs, ils ont du mal à parler de ça. C'est...
Et après, vous vous êtes séparés ?
Oui, bien sûr. On s'est séparés dans les 15-20 jours, un mois, c'est assez violemment aussi. Je l'ai giflé... Ah oui, au milieu de la rue, comme ça, c'était une scène très, 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 très théâtrale, très italienne. Ça a été très, très fort, très violent. Mais au moins, ça a été la fin.
C'est une vieille histoire, l'histoire de cette dernière fois.
Ouais, c'est une vieille histoire. Mmh. Ouais, c'est une vieille histoire. C'était combien de temps ? Une vingtaine d'années, un peu plus même.
T'avais quel âge ?
J'avais 32 ans, quelque chose comme ça.
Et elle avait quel âge ?
On avait le même âge.
Elle s'appelait comment ? Elle s'appelle comment ?
Nikki. Elle était anglaise, elle détestait son prénom, qui était Nicolette. On s'était rencontrés à un séjour que j'avais fait à Londres pour améliorer mon anglais. Elle était bien désirable, cette professeure d'anglais.
C'était la preuve. Voilà.
C'est compliqué parce qu'elle habitait Londres, moi j'habitais Paris, j'ai jamais autant pris l'avion pour aller à Londres. Peut-être que c'est ce qui en faisait tout le plaisir, d'ailleurs. On s'écrivait, c'était des lettres, c'était des cartes postales, c'était dans l'intervalle de nos rencontres. Et moi, j'adorais cette relation où il fallait parler anglais, quoi. Et c'était pas indifférent au désir. C'était aussi une relation physiquement, sexuellement, très forte. Expérimentée, vécue et nommée par cette langue. Et peut-être que c'était plus... ça m'a paru plus évident d'aller chercher des mots ailleurs, là-bas, plus loin, dans un autre pays.
Vous êtes restés combien de temps ensemble ?
Un an, deux ans.
Comment ça s'est passé ? Comment c'est arrivé ?
Comment c'est arrivé ? Est-ce qu'on en sait quelque chose ? Dans son travail, elle a rencontré un type. Hein. Il était espagnol. je ne pouvais pas lutter contre un espagnol. Je me souviens de son prénom. Il s'appelait Jorge. Donc, salopard, il m'avait coupé l'herbe sous le pied. Hein.
Lorsque des jeunes gens se séparent, tout devient en général incompréhensible. Cela, par exemple. On est à la piscine, elle le regarde qui fait le sous-marin avec une copine, elle frissonne. Pourquoi est-ce qu'il ne l'aime plus ? Tu n'as donc pas reçu ma lettre ? Il lui demande. Oui, mais je n'ai rien compris. C'est pourtant simple, dit-il. Je t'aime tellement, tu es tellement là, tout le temps. Tu existes si fort pour moi et à jamais qu'il est inutile que je te voie encore puisque tu seras toujours là, quoi qu'il arrive. Elle tire nerveusement sur un petit collier qu'elle a autour du cou. Il casse. Les perles tombent dans l'eau. Il plonge et lui en rapporte une. Et il dit encore quelque chose. Elle finit par pleurer.
En fait, ce qui s'est passé... Concrètement, c'est que voilà, on avait un repas à la maison avec des copains, des connaissances, et il y avait une fille en plus, une nana, une copine à lui. Lorsque les gens sont repartis, moi je suis descendue fumer une clope parce qu'on avait l'habitude de fumer à l'extérieur de la maison. Donc lorsque je suis raccompagnée tout le monde et après ma clope, je suis remontée. En fait, elle était dans ses bras. Je l'ai vue, elle, la tête penchée sur son épaule à lui, lui son bras autour du cou. C'était pas qu'une histoire de cul, ça se voyait. Et j'ai reçu un coup sur la tête, en gros. C'était un peu énorme. Hein. Fred souriait d'une façon qui était un peu mal à l'aise et à la fois très fière de me présenter son ami, je pense. Donc je suis aussitôt redescendue fumer une clope. J'ai trouvé que ça à faire. Quand je suis remontée, elle était dans le salon, elle était adossée à une partie du mur. Et je me rappelle qu'elle a posé me regarder dans les yeux et Fred était dans la chambre, je ne sais pas ce qu'il traficotait. Et chose étrange, je me suis conduite un peu comme une mère. J'ai pris son visage dans mes mains, cette fille, puis je lui ai dit « si tu veux, tu peux rester ». J'accepte que tu donnes du plaisir à mon mec, voilà.
Mais ça avait été dit, ça, que vous alliez...
Non. Non, c'est ça qui est très troublant. Enfin, troublant, c'est même pas le mot qui a créé la dernière fois, en fait. C'est que moi, je me suis sentie dans la possibilité de choisir. Le choix qui aurait été juste à ce moment-là, ça aurait été que je me tire. Mais voilà, c'était tard et j'étais fatiguée. J'étais au bout d'une énergie et vraiment... prise au piège du confort, d'une vie de couple qui est sans problème, mais sans heurts, mais sans non plus de... sans beauté, sans harmonie, sans une espèce de ronron peu joyeux, mais peu encombrant aussi. Enfin, une espèce de truc, qui doit s'appeler le couple, hein, je pense, qui doit s'appeler le quotidien, les habitudes, le contrat de bonne entente, voilà, le contrat d'entraide, mais qui relève plus du sentiment amoureux propre, quoi, ou beau. Donc, quand Fred a déplacé le matelas et tout ça, je suis venue dans la chambre. Elle était assise sur le sommier, donc le matelas était au sol. Et là, j'ai poursuivi mon œuvre de don. Je pense que j'étais une bonne épouse, hein, voilà. Et en tant que bonne épouse, j'ai concouru à offrir à Fred son jouet.
Voilà. C'était depuis le début, ça ? Depuis le début de votre histoire, c'était comme ça ?
Ouais, depuis le début de l'histoire, ouais. Je me suis toujours positionnée, mal positionnée, on peut dire, mais un peu malgré moi, bien sûr, dans une posture de quelqu'un qui a peur d'être aimé, ou de ne plus être aimé, donc du coup d'être dans une démarche de soumission, accepter tout pour que l'autre porte un regard positif sur moi, ouais. Ou j'étais leur esclave sexuelle, entre guillemets esclave, hein, c'est beaucoup trop fort, mais ils sont leur instrument de plaisir, où j'étais active et je prenais part aux choses. Donc dans un premier temps, c'est comme ça que ça s'est passé, effectivement, j'ai donc déshabillé cette fille, et après elle s'est mise à être active, mais au départ c'est moi qui ai cherché à la mettre à l'aise. Et ça a vraiment concouru à ce que je n'ai plus du tout envie de toucher Fred, en fait, j'ai touché cette fille à défaut de toucher Fred. Et
elle te plaisait, cette jeune fille ?
Non, pas vraiment, non. Elle plaisait à Fred, mais moi, elle m'évoquait rien de sexuel.
C'était la première fois que tu déshabillais une fille ?
Non. Non, on a eu une autre expérience comme ça avec Fred. Fred avait avait eu une autre aventure avec une autre nana, par contre plus âgée que moi cette fois-ci, vachement chouette, vachement jolie, très pro sur le coup, qui avait une petite chambrette destinée à des escapades sexuelles comme ça, donc avec un magnifique plancher, une baignoire au milieu de la pièce, du champagne au frigo, des coussins partout, des miroirs également, enfin voilà, tout un décorum qui était vraiment complètement dédié à une sexualité débridée et à plusieurs, quoi. Donc là, c'était clair. Dans ce cas-là, moi, j'avais accepté cette expérience parce que cette fille me plaisait déjà, et parce qu'elle me mettait pas en danger quelque part. C'était pas une histoire d'amour, c'était une histoire de cul, et c'était clair. Et pour moi, c'était voilà une expérience que je voulais avoir depuis longtemps. Et puis l'occasion se présentait avec une certaine esthétique finalement. Et du coup, ça m'est cher de pas entrer dans le sordide, le glauque. Là, au contraire, il y avait une espèce de bourgeoisie délurée comme ça. Et puis c'était choisi. J'étais là volontairement. Cette fille, elle était belle. Elle se mettait en valeur. Elle avait tout compris des codifications du sexy, et du coup elle en jouait beaucoup et avec grâce, quoi. C'était que cette fille-là était plutôt elle a une corpulence qui fait un peu enclume, le poids est vers le bas, et ça m'évoquait pas quelque chose de léger, de qu'on prend dans les bras et qu'on fait tourner, quoi. C'était plutôt statique, et voilà.
Et puis tu soupçonnais Fred
d'être amoureux.
Amoureux d'elle.
Ouais. Et en même temps, Fred était très... Il tenait beaucoup à notre lien entre lui et moi. C'était évident. Mais moi, j'ai compris à ce moment-là que... Et c'est aussi pour ça que ça a été la dernière fois, c'est qu'on était arrivé au bout. Au bout. C'est-à-dire que je ne pouvais pas donner plus et je ne pouvais pas donner contre mon gré. Et voilà, j'ai pu donner ça, mais j'aurais pas pu donner ce qu'il exigeait de moi pour la suite. Lui, il souhaitait que cette fille vienne vivre avec nous. C'était pour lui un nouveau départ, parce qu'il sentait bien, et on en avait parlé plusieurs fois, que notre couple battait de l'aile et qu'on n'avait plus de dynamique, on ne trouvait pas notre chemin, quoi. On était côte à côte, mais sans pas grand-chose à partager, mis à part les meubles, un peu de musique. Et du coup, il me proposait de partager cette fille, en fait, c'est ça. Et moi, j'avais pas cette énergie-là, donc c'est aussi ce qui explique que ça a été la dernière fois, l'ultime fois, où j'ai touché son corps et c'était sans plaisir, sans aucun plaisir. Alors, elle te plaît ma dernière fois ?
Je vous propose un contrat. Un vrai contrat équitable pour tous les deux. Puisque nous aimons tous les deux ce qui est exceptionnel. Voilà. Je viens là, près de vous. Maintenant. Nous restons ensemble pendant quelques heures. Et ensuite, quoi qu'il arrive, nous ne nous revoyons plus jamais. D'accord ?
Oui ?
Oui.
Je vais peut-être ôter la clé de la serrure. Dans les histoires que nous aimons tous les deux, la dame jette la clé par la fenêtre. Mais pour nous, ce petit vin sera très bon.
Non, c'est une sorte de pétroleuse. Hein. C'est ce qui m'a fasciné. Moi qui arrivais dans le pays, elle m'a servi de formidable guide. Elle était extrêmement jolie. Mais en plus, il s'avère qu'elle avait été le seul coup de folie extra-conjugale de l'ambassadeur. Ça se passait en Asie du Sud-Est, je venais d'arriver à l'ambassade, et ça a été une sorte de coup de foudre, puisqu'au bout de 3 jours, nous étions ensemble.
Tu savais que c'était la dernière fois ?
Justement, non. Le problème, c'est que je sortais d'une histoire de couple, et que j'avais plutôt envie de croquer la vie à pleines dents. Au bout d'un mois, elle a estimé que, on s'entendait, une entente physique exceptionnelle, mais que je n'étais pas celui qui lui offrirait cette stabilité qu'elle recherchait. Et elle est arrivée à la conclusion que cette histoire devait prendre fin. D'abord, moi je n'ai rien vu venir, j'aurais pu avoir la puce à l'oreille, mais je n'ai rien vu venir. Nous nous sommes douchés, ne nous pas oublier que nous étions dans un pays tropical, donc la douche c'est plusieurs fois par jour. Au lieu de nous jeter sur le lit, nous avons fumé en tenue légère sur sa terrasse, avec des décorés de meubles coloniaux. C'était très agréable. Nous avons pris notre temps, voilà. Nous avions tendance à ne pas nous étendre sur les préliminaires, mais à consommer assez rapidement, avec passion, l'acte lui-même. Et là, au contraire, il y a eu plus de préliminaires, de jeux. L'excitation était portée à son comble.
Et tu dirais que c'est toi qui as instauré ça ?
Ah non, pas du tout. C'est elle qui dirigeait. C'est elle qui dirigeait depuis la douche jusqu'à la cigarette fumée sur la terrasse, ensuite en passant par les préliminaires. Je savourais tout simplement un moment d'exception. Cette dernière fois, effectivement, a été inoubliable. Elle a tout fait pour que je ne l'oublie jamais. Et son savoir était grand. Je le prends comme une sorte d'apothéose. Et une façon de dire que bah, ça aurait vraiment pu marcher, mais quelque chose au fond de moi me dit que ça ne marchera pas. Et donc, terminons en beauté. Je pense que c'est ce qu'elle s'est dit. En revanche, le coup m'a pris par surprise. Il est vrai que comme j'étais assez libertin, et j'avais tendance à l'époque à érotiser toute forme de relation avec les femmes, enfin, j'avais le sentiment d'être irrésistible. Donc, ça m'a vraiment pris par surprise. J'ai cru à une nouvelle étape dans notre façon de faire l'amour, comme tous les couples connaissent des évolutions, mais j'ai pas pensé à un instant que j'allais sentir mais pas le vent du boulet, mais le boulet en pleine figure.
Mais sur le moment, t'as réagi comment ?
Sur le moment, j'ai pleuré. L'acte d'amour avait été magnifique, épanouissant, comme c'était une histoire assez passionnelle, d'où la brutalité de la révélation. Une fois répudié, j'étais le premier à lui dire, à lui jurer amour éternel, mais c'était trop tard. Et je me suis littéralement effondré et j'ai pleuré.
C'est ton bonheur que je veux, pas tes larmes.
Je tiens à l'amour, oui. J'ai mal, oui. Ça fait mal. Est-ce que c'est ça l'amour ? Est-ce que l'amour fait mal ?
Oui, ça fait mal.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte. Perderte otra vez.
De me coucher à côté de l'homme que j'aime et de me dire que ça se trouve, il ne m'embrassera plus jamais. Ça, c'est. Oui, c'est horrible.
Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez.
Ça faisait 2-3 mois en fait qu'on était en grande tension et que lui m'avait demandé à ce qu'on se sépare. Et que moi comprenant pas pourquoi il voulait partir et qu'on se sépare, enfin c'était tellement le truc qui arrivait de nulle part et. Que voilà, je voulais pas quoi. Enfin, donc je lui ai dit, on va prendre le temps, on va essayer de moins se voir. Donc c'était compliqué évidemment avec les enfants. Donc j'essayais de certains soirs de pas dormir là, enfin de partir. Enfin c'était chassé croisé. En même temps, j'avais exclu le fait qu'il ait quelqu'un d'autre parce que je lui avais posé assez rapidement fin septembre la question. J'avais senti assez distant. Et je lui avais dit t'as quelqu'un et là il m'avait dit non, donc j'avais exclu ça et donc ça faisait des semaines en fait que voilà je comprenais pas ce qu'il avait et je me torturais et quand c'était fin novembre quand voilà j'ai senti un soir tendu et voilà je me suis dit mais peut-être qu'on pourrait faire l'amour et ça. Et du coup, au contraire, pour moi, c'était un espoir. Enfin, je me disais, c'est pas possible d'ailleurs qu'on fasse pas l'amour, parce que ça faisait 15 ans qu'on était ensemble. ça arrivait pas. Je veux dire qu'on fasse pas l'amour pendant des semaines. Il y avait un moment, voilà. Enfin, donc là, c'était aussi un mystère. Enfin, que. Enfin, ça collait avec l'idée que j'avais qu'il faisait une dépression, qu'il y avait une crise, que, enfin, mais personnelle de lui. Enfin, et, donc au contraire, oui, j'espérais au contraire que ce serait quelque chose qui relancerait, que ce serait presque une première fois après cette longue période sans faire l'amour, mais qui était très très dure parce que voilà, se coucher dans le lit de l'âme qu'on aime et c'est comme s'il y avait un mur entre nous deux et il n'y a pas de contact physique et moi j'avais pas envie de lui dire plein de choses que je l'aimais, de l'embrasser et je pouvais pas et donc là ce soir là où je l'ai senti tendu, etc. Je lui ai proposé voilà, qu'on fasse l'amour et voilà, il a accepté. Et en fait, c'est comme si. En fait, c'était pas faire l'amour, en fait. C'était lui qui assouvisait son désir, quoi. On n'avait jamais fait l'amour comme ça. Enfin, la chose qui m'a le plus marquée, c'est qu'il n'y ait pas eu de contact au niveau du visage, quoi. Il n'y avait pas de, on ne s'est pas embrassé. Il n'y avait pas, voilà, toutes ces dimensions en fait de tendresse qu'il y a dans un rapport. Enfin, ouais, c'était comme faire l'amour avec un étranger. Enfin, et je sais qu'après j'ai pleuré, j'étais pas bien. Peut-être qu'il s'est rendu compte. Aussi qu'il y avait quelque chose de mort de son côté, en tout cas. Et que ça n'avait pas de sens de... Justement, qu'on fasse l'amour. Et puis voilà, il n'était plus à même d'être dans un rapport tendre avec moi, quoi. Enfin... Donc... Sauf qu'évidemment, j'attendais bien plus de ce rapport... Mais je pense que pour lui, quand on a fait l'amour, c'était déjà fini pour lui dans sa tête. Enfin, je pense qu'il... Enfin, il n'y a pas eu de dernière fois, quoi. Enfin, si dans la dernière fois qu'on imagine, c'était... Besame mucho, comme se fue la última vez. Et non, enfin, il y a... Mais il n'y a pas eu une dernière fois, en fait.
Que tengo miedo perderte. Perderte otra vez.
Comme je pleurais, je suis sortie marcher dans la rue pour me calmer, puis je me suis arrêtée pour t'écrire ce mot. Paul, tu n'es pas là. Mais souvent, il me semble que ton absence me chuchote dans le creux de l'oreille. Ça me tient compagnie. Et ton absence me demande. Esther, où est-ce que je suis? Où est-ce que j'ai été vraiment moi, moi-même, celui que je suis vraiment? Paul, je suis tellement perdue que je n'arrive plus à me retrouver. Et moi, dans ma tête, je pense. C'est facile, tu étais et tu es encore dans ma foi, dans mon espoir et dans mon amour. Et ton absence me demande encore. Est-ce que je suis ton enfant? Est-ce que je suis coupable? Est-ce que tu peux me pardonner? Et dans ma tête, moi, je te réponds. Tu as fait de ma vie un enchantement. Et ton absence me demande. Cache-moi, protège-moi. Et comme Solveig, je te réponds. Dors, mon tout petit, dors. Toute la longue journée de la vie, nous l'avons passée à jouer, à courir, à chanter ensemble. Maintenant, mon enfant a besoin de se reposer. Alors ferme les yeux, mon petit gars, mon fiancé, mon amour. N'aie pas peur, ne crains rien, parce que je veille sur toi. Alors, ton absence s'endort tout contre mon esprit. Je te protège, je pense à toi, je t'embrasse. Esther.
Eh ben non, ça, c'est quand même un peu compliqué. Et puis...
Elle te l'a annoncé comment ?
Je pense que c'était une carte postale. Oui, attends, t'es bien gentil, mais moi j'aurais bien discuté de cette histoire. Pas. Est-ce que j'ai pas envie de renoncer à cette relation ? J'ai pas envie du tout d'entendre qu'elle avait rencontré cet autre homme et que notre histoire, bah, c'était fini. J'ai pas du tout envie d'entendre ça. Alors c'est moi qui suis allé à Londres.
Elle a accepté de te voir.
Elle a accepté, oui. Oui. Elle aurait pu refuser, hein, bien sûr. Hein. Elle a accepté. Je crois que c'était dans un parc et peut-être que ça faisait lien avec notre rencontre dans les parcs. Hein. Quelque chose qui venait se boucler. C'était une peine qui s'éprouvait. Je pense qu'on était tous les deux très emmerdés. Quoi. Ça me fait tousser.
Et alors comment vous êtes passé de cette discussion dans un parc à une dernière... D'ailleurs, c'était peut-être pas la nuit, un dernier moment d'amour.
Non, c'était pas la nuit, c'était l'après-midi. Je crois que c'est elle qui m'a invité chez elle. On a fermé les volets. Alors j'ai l'impression, pourquoi que le lit est tout petit ? Dans mon souvenir, c'est un lit où il n'y a pas de place pour deux, dans cette ambiance un peu tamisée.
Ce moment-là, tu t'en souviens bien ? Est-ce qu'il se démarque de toutes les autres fois où vous aviez fait l'amour ?
Oui. Oui. Nous avions beaucoup, beaucoup de plaisir à faire l'amour ensemble. Et c'était présent dans ce dernier moment. Mais ce qui émergeait aussi, c'était les larmes. C'était un moment qui mêlait plaisir et tristesse et souffrance. C'était un moment désespéré aussi. Est-ce que ce n'était pas le plaisir du désespoir ? Je pense que c'était beaucoup plus intense que ça, sinon trop. J'ai l'impression qu'on est en pleine jouissance, quoi. Ça a quelque chose à voir, certainement, avec le vécu de celui qui assassine quelqu'un. On est à la fois dans une horreur et saisi par cette horreur. Enfin, cette idée de vouloir immobiliser le temps sur un dernier... voilà, comme si c'était possible. Qu'est-ce que c'est que le temps qui s'immobilise, sinon le moment où on est dans une boîte, le moment où on meurt. Ce moment du corps, c'est presque un moment où il n'y a que du corps. Mais c'est du corps qui a fini de vivre. Je crois que ça a quelque chose à voir avec un moment de folie pure. C'est certainement une image radicale nécessaire pour pouvoir accepter l'inacceptable, qu'il s'agit d'emporter, qu'il s'agit d'assimiler, qu'il s'agit de digérer, qu'il s'agit de métaboliser. Ce corps de l'autre saisi en soi, fiché en soi, englouti, enfin quelque chose comme ça, enfin que petit à petit, il s'agit de digérer, hein, il s'agissait bien de digérer cette histoire. Et cette rupture.
Je te rencontre. Je me souviens de toi. Cette ville était faite à la taille de l'amour. Tu étais fait à la taille de mon corps même. Qui es-tu ? Tu me tues. J'avais faim. Faim d'infidélité, d'adultère, de mensonge et de mourir depuis toujours. Dévore-moi. Déforme-moi à ton image, afin qu'aucun autre après toi ne comprenne plus du tout le pourquoi de tant de désirs. Nous allons rester seuls, mon amour. La nuit ne va pas finir. Le jour ne se lèvera plus sur personne. Jamais. Tu me tues encore. Tu me fais du bien. Nous pleurerons le jour défunt avec conscience et bonne volonté. Nous n'aurons plus rien d'autre à faire, plus rien que pleurer le jour défunt. Du temps passera, du temps seulement. Et du temps va venir. Du temps viendra où nous ne saurons plus du tout nommer ce qui nous unira. Le nom s'en effacera peu à peu de notre mémoire. Puis, il disparaîtra tout à fait.
Quand t'es partie, tu l'aimais encore ?
Non. Non, je l'aimais plus. Et je pense que quand je dis que j'étais fatiguée des mois précédents, c'était que je sentais bien que l'amour avait disparu. Et j'ai fait durer ça parce que j'ai fait durer un couple. Mais j'ai pas. Mais l'amour n'était plus là, non. Dans cette dernière relation sexuelle, il y avait plus d'amour, ça sans aucun doute. J'avais plus d'attrait pour son corps, j'avais plus de pétillement ni dans le cœur ni ailleurs, et c'est pour ça que je suis partie, oui. Mais aussi parce que voilà, il y avait des concessions que je voulais plus faire et parce que j'avais envie de liberté, j'avais envie de vivre. Je me sentais mourir, en fait. Ouais, je me sentais dépérir. Et cette activité sexuelle, c'était une immense fatigue. Ça m'a demandé un effort du corps entier, du psychisme entier, où j'avais pas une capacité de recul, j'étais très fatiguée, j'étais acculée, et je croyais que c'était possible peut-être de partager ça avec Fred, je savais au fond que c'était pas vrai, mais... Voilà, c'était aussi pour lui dire que j'étais capable de faire ça et de partir, du coup. Ouais. Je suis partie très vite. En 3 jours, j'ai trouvé un hébergement, un lieu pour mes affaires, des cartons, des amis, des camions. Et je suis partie le dimanche. Donc c'était du mercredi au dimanche et j'ai fait ça. Et je lui ai demandé de pas être là le week-end. Le samedi, j'ai fait mes cartons avec des amis et puis le dimanche, je suis partie. Et en partant, j'ai voulu lui signifier que ma place était unique et que j'avais bien une place. Donc j'ai voulu la matérialiser. Ça m'est venu dans la nuit, cette idée-là. J'ai empoigné un gros cutter et j'ai ôté le drap du lit et j'ai défoncé le matelas. J'ai fait une énorme vulve avec mon cutter. Alors oui, ça fait sourire, mais... j'ai planté le cutter et puis j'ai lentement coupé le matelas à mon emplacement, là où je dors. J'ai fait une vulve énorme, donc une forme, une mandrole, hein, une amande. Et puis j'ai arraché la matière et j'ai remis le drap, remis la couette et j'ai mis cette matière à la poubelle. J'ai fermé la poubelle et je suis descendue et c'est la dernière fois que je suis venue dans cet appartement. Voilà, ça c'était mon geste pour signifier que c'était ma place, que c'était ma chatte et que c'était ma plaie béante. Et après, un état de soulagement, mais comme si j'avais ôté vraiment un sac à dos très lourd, une épine du pied, un truc mais physique, où je relevais la tête et j'avais un désir de vivre gigantesque, j'avais le sourire. Je retrouvais la vie, je retrouvais ma vie, mon moi, mon indépendance, ma liberté, mon choix. J'avais plus rien, plus de voiture, plus d'appart, mais j'avais mon boulot et surtout, j'avais des amis. Et c'est ça qui a fait que la dernière fois n'a pas été que de la douleur, de la violence et de la rupture. C'était aussi... Eh bien, la dernière fois, ça a ouvert la porte à ce que j'avais mis en place, moi, socialement. Voilà, des gens qui comptent, quoi. Et pas une seule personne qui mange tout. Voilà.
La personne avec qui j'ai une histoire d'amour n'est pas libre, vit déjà avec quelqu'un, est mariée, a des enfants. On se voit très souvent, on se voit tous les jours, on se voit à la journée, parce qu'on a des boulots qui font qu'on peut se voir tous les jours. Mais on se voit pas le soir, on se voit pas pendant les vacances, on se voit pas le week-end. Voilà, c'est pas une vraie histoire d'amour au quotidien, avec des projets.
C'est pas toi qui décides quand vous vous voyez.
Je ne décide absolument pas de quand on se voit. Je suis disponible par rapport à son emploi du temps. C'est quand lui peut, on se voit.
Et la dernière fois que tu l'as vu, c'était quand?
C'était jeudi dernier. Comme d'habitude, moi j'étais hyper contente de le retrouver parce que je ne savais pas quand allait être la fois d'après. C'est-à-dire que ce qui arrive assez souvent, ce qui arrivait assez souvent... C'est qu'on se voyait le matin, une fois que j'avais déposé mon fils à l'école. J'ai toujours un petit moment entre le moment où je dépose mon fils à l'école et le moment où je pars au travail. Donc c'est un laps de temps assez court, lui il part travailler aussi. Du coup, on est toujours dans cette urgence de profiter un maximum des moments où on se voit. Et la plupart du temps, on se dit « ce serait bien qu'on fasse pas l'amour » et on n'y arrive jamais. Et donc ça, c'était le matin du jour où on s'est dit qu'on arrêtait.
Ça commence comment?
En fait, à chaque fois qu'on se retrouve, on a besoin de se prendre dans les bras. Beaucoup plus, j'imagine, qu'un couple qui a passé la nuit ensemble. C'est-à-dire qu'il y a ce manque de contact qui existe. Du coup, voilà, on se serre dans les bras assez longtemps. Et puis le désir arrive très très vite en fait. Il est vraiment présent comme dans un début de relation. On est toujours dans un schéma de début de relation en fait, de ce besoin du corps de l'autre. Le désir il est vraiment augmenté par le fait qu'on se manque. Physiquement, parce qu'on n'habite pas ensemble, on se voit pas quand on a envie de se voir. Ça va très vite, en fait. Il y a vraiment une urgence de se sentir physiquement.
Il est beau?
Oui, moi je le trouve très beau. Maintenant, je sais pas si c'est... Enfin, c'est surtout lié au fait que je l'aime, que je le trouve beau.
Qu'est-ce que tu trouves beau?
Je trouve beau ses yeux. Je trouve beau, j'aime beaucoup sa voix et j'aime bien le voir nu, j'aime bien le fait qu'il soit nu chez moi comme s'il habitait chez moi.
Quand tu penses à ces moments où vous faites l'amour, c'est quoi la chose qui t'émeut le plus?
J'aime beaucoup sa façon de me faire l'amour. Je pense qu'il aime beaucoup faire l'amour avec moi. Je le sens vraiment là pour me faire plaisir, en fait. Quand il vient, il vient pas juste prendre son plaisir, il est là aussi pour m'en donner beaucoup. Je crois qu'il aime beaucoup me voir prendre du plaisir. Ça me touche. Ça fonctionne bien, en fait. On fait très bien l'amour ensemble. Je sais pas, ça marche, quoi. Et jeudi soir... J'ai réussi à lui dire que j'y arrivais plus, que même si voilà, je l'aime énormément, le fait d'être comme ça, tout le temps frustrée, me rend trop malheureuse et je lui ai dit que je voulais arrêter. Il n'était pas du tout d'accord, ni préparé. Ceci dit, moi, j'étais pas préparée non plus. Je pensais pas que ça allait arriver comme ça. C'est sorti.
Depuis, il m'a demandé de lui laisser du temps pour réfléchir, et depuis, je ne l'ai pas vu. Donc, je suis dans l'attente de cette réflexion.
Et est-ce que tu penses que ça pourrait être la dernière fois que tu le voyais ?
C'est possible que ce soit la dernière fois que je l'ai vu, ce jeudi. Ce serait extrêmement triste, parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Ce serait possible que ce soit la dernière fois, mais j'aurais vraiment du mal à l'accepter et à m'y faire.
Le voilà !
Depuis 14 années, pour la première fois en retard.
Oui, je sais. J'enrage. Je fus mise en retard, en effet. Et par une visite assez inopportune.
Ah oui, quelque fâcheux ?
Cousine, c'était une fâcheuse.
Vous l'avez renvoyée ?
Oui. J'ai dit, excusez-moi, mais c'est aujourd'hui samedi. Jour où je dois me rendre en certaines demeures. Rien ne m'y fait manquer. Repasser... dans une heure.
Cousin.
Je vous assure, ce n'est rien. Laissez-moi.
Venez.
C'est ma blessure d'Arras qui, quelquefois, vous savez...
Pauvre ami.
Mais ce n'est rien. Cela va finir.
Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive. Elle est là, cette blessure ancienne. Sous sa dernière lettre au papier jaunissant, où l'on peut voir encore des larmes et du sang.
Sa lettre.
Ouvrez. Lisez.
Roxane, adieu. Je vais mourir.
Tout haut.
C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Et je voudrais crier.
Comme vous la lisez, cette lettre.
Et je crie. Adieu.
Vous la lisez.
Ma chérie. Mon trésor.
Une voix.
Mon amour.
Une voix. Mais que je n'entends pas pour la première fois.
Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Et je suis. Et serai jusque dans l'autre monde. Celui qui vous aima. Sans mesure. Celui.
Comment pouvez-vous lire à présent ? Il fait nuit.
Il fait nuit.
C'était vous.
C'était Les Dernières Fois de Francesca, Didier, Laurent, Florence, Delphine et Hélène. Sur les docks, prise de son, Yves Lehors et François Rivalon. Mixage, Philippe Palares. Attaché de production, Christine Gage et Laure-Hélène Planchet. Un documentaire de Caroline Ferrard et Christine Robert.
C'était le dernier épisode de cette série de témoignages. La semaine prochaine, nous vous proposerons dans l'heure du documentaire 5 pièces de collection particulière par Élise Andrieux, Julie Navarre, Stéphane Bonnefoy, Tony Ayer et Jeanne Robet.